Comme tout bon inspecteur qui se respecte, prenez votre café. On doit absolument rester éveillé toute la soirée parce qu'il y a des choses à dire. Vous l'avez compris, c'est un polar qui est à l'honneur. C'est tout de suite, c'est l'after. Hello la team, bienvenue pour ce nouvel épisode after de la bande de livres. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés au chaud avec votre boisson, que ce soit du thé, du café, tout est ok, mais c'est vrai que pour un inspecteur qui se respecte, un expresso c'est pas mal. Pour ma part, ça sera un cappuccino noisette parce que c'est la base tout simplement. Le livre du jour, c'est une pépite et je l'avais déjà annoncé dans le before de mars, j'espère que vous l'avez écouté. Je l'avais présenté et j'avais dit que j'avais vraiment hâte de le lire. Il n'y a pas de grande surprise, vous avez deviné si vous avez bien tout suivi. Aujourd'hui, on va parler de Reine Rouge de Juan Gomez Jurado. Pour rappel, le format after de ce podcast est un moment où je donne mon avis après la lecture d'un livre. Alors oui, il y aura du spoil et oui, c'est très subjectif. Mais ne vous inquiétez pas, pour tous ceux qui ne l'ont pas lu, on aura une première partie sur la présentation du livre, de l'auteur et toutes les informations intéressantes à avoir pour vous donner l'eau à la bouche. Et seulement après, on basculera dans une autre partie où c'est un peu plus juicy parce que c'est vraiment là où on rentre dans le dur et que je vous donne mon avis sur ma lecture. Et pour tous ceux qui l'ont lu et qui aiment débattre, on continue la soirée sur le compte Instagram du podcast que vous retrouverez en description. Reine Rouge, c'est donc un roman policier espagnol écrit par Juan Gomez Jurado et traduit par Judith Vernon. J'espère que mon accent espagnol y passe et que je n'ai offensé aucun espagnol. Donc Juan Gomez, c'est pas seulement un écrivain, c'est même avant tout un journaliste. Il a travaillé pour Canal+ Espagnol en tant que chroniqueur et également pour La Voz de Galicia, qui est un journal quotidien espagnol. Mais depuis la sortie de son premier roman qui s'appelle Espion de Dieu, il s'est vraiment consacré à l'écriture et spécialement au thriller. Il a sorti depuis pas mal de livres, dont une série portée un peu sur le mystère et qui est pour les enfants de plus de 9 ans. Assez étonnant vu le type de livre qu'il fait, mais il a été accompagné de sa femme qui est pédopsychiatre et qui s'appelle Barbara Montes. Et en 2022, c'est le livre Reine Rouge qui sort en France sous les éditions Fleuve Noir. Si je me trompe pas d'ailleurs, au début du livre, il y a une petite dédicace pour sa femme, puisqu'il y a écrit pour Babs, Barbara, vous avez fait le lien. Et Reine Rouge, il s'inscrit finalement dans une série de 3 volets. Donc Reine Rouge, c'est le premier tome, puis on a Louve Noire et Roi Blanc qui terminent cette série. Vous le savez peut-être, mais chaque année, et ceci depuis 1987, au sud-ouest de la France et précisément à Cognac, on a le Polar Festival, donc c'est un festival qui met en l'honneur tous les arts autour du thriller et du polar, et plus précisément la bande dessinée, le cinéma, la littérature, la télévision et le théâtre. Et lors de ce festival, on décerne quelques prix, et Reine Rouge reçoit celui du prix Cognac du meilleur roman international. Sur le plateau de La Ventana, qui est une radio espagnole, l'émission est sortie le 29 février, on apprend que Reine Rouge sera adaptée en série sur la plateforme Amazon Prime pour une saison de 7 épisodes. Franchement, je pense que je vais regarder. Ça a l'air vraiment intéressant. C'est donc Victoria Luigo et Ovik Kushkurian. Je suis désolée. Encore une fois, si j'ai massacré le prénom et le nom, je suis désolée. Mais c'est ces deux acteurs qui vont interpréter les rôles d'Antonia et John Gutierrez, pardon. La série est disponible depuis le 29 février sur la plateforme. Donc, pour revenir à l'œuvre initiale, donc le livre, pour ma part, je l'ai lu au format poche, mais je l'ai tellement baladé partout avec moi que je pense le racheter au format broché en occasion. Surtout, sur les séries et les sagas, j'aime bien avoir les gros livres, donc pourquoi pas me le racheter. Au niveau des pages, sans compter la note de l'auteur à la fin, on est à peu près à 547 pages. Et tout de suite, je vous laisse avec le synopsis. Antonia Scott est spéciale, très spéciale. Ni flic, ni criminologue, elle n'a jamais porté d'armes ni d'insigne, et pourtant elle a résolu des dizaines d'affaires criminelles, avant de tout arrêter. Depuis un tragique accident, Antonia se terre dans un appartement vide et n'aspire qu'à une chose, la tranquillité. C'était compté sans l'inspecteur John Gutierrez, missionné pour lui faire reprendre du service, il parvient à la convaincre d'étudier un dernier dossier, celui d'un assassin qui s'en prend aux héritiers des plus grandes fortunes d'Espagne. Sa particularité, l'homme ne semble motivé ni par la peur du gain, ni par le plaisir de tuer. Un cas complexe auquel la police madrilène n'entend rien. En un mot, le terrain de jeu favori d'Antonia Scott. Attention, pour tous ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous invite à vous arrêter ici, mais bien évidemment que vous êtes les bienvenus dès que vous avez fini de lire le livre pour reprendre cet épisode à cet endroit précisément pour avoir mon avis, parce que, petit teaser, restez jusqu'à la fin. Parce que la partie commentaire est hyper intéressante. Et sinon, on se retrouve sur les réseaux sociaux du podcast, comme d'habitude, parce que votre avis m'intéresse aussi, bien évidemment. Allez, je spoil d'entrée de jeu sur mon avis. Bon, en fait, c'est même pas un spoil parce que je l'ai dit en introduction, mais ce livre, pour moi, ça a été une pépite. Je vous l'ai présenté dans le premier before en vous disant que j'avais hâte de le lire et je suis vraiment pas déçue, même si c'est vrai que je l'ai lu très lentement. J'ai vraiment eu du mal à le lire, non pas parce que le livre n'était pas bien, ni parce que la plume n'était pas fluide. C'est vraiment pas pour ce genre de choses, c'est plutôt parce que en même temps, j'étais en train de m'organiser, j'étais dans la création de la bande de livres, donc fallait que je trouve mon rythme. Du coup, j'ai eu pas mal de mal à continuer la lecture et je voulais aussi attendre de lancer vraiment bande de livres pour m'y mettre. Shout out to Erika, ma pote qui m'a présenté et qui m'a recommandé ce livre, qui m'a poussé à le lire aussi, qui m'a un peu insultée parce que je le lisais pas assez vite à son goût. Mais merci parce que ce livre, c'est vraiment une pépite et je le classe vraiment dans les polars qui m'ont marqué. Et si on me demande une recommandation, je pense que je le mettrai clairement à côté d'Un avion sans ailes de Michel Bussy, qui est l'un de mes livres préférés. Du moins, c'est le premier livre qui m'a fait vraiment aimer le monde du thriller et du polar. Il y a beaucoup de choses qui font que j'ai aimé Reine Rouge, et le premier, c'est le rythme. Le rythme, parce qu'il y a énormément de rebondissements, il y a toujours quelque chose pour relancer l'histoire, un nouvel arrivant, un nouveau personnage qui vient rapporter vraiment quelque chose. Et faut savoir que de base, moi je suis très nulle pour les enquêtes. Je suis vraiment très nulle, je vois pas les indices, j'arrive pas à deviner forcément la suite. J'ai des théories comme tout le monde, je pense, mais c'est pas vraiment les bonnes. Et là, pour le coup, je me suis dit, ok, je vais vraiment essayer de faire les choses bien. Donc, j'avais mon petit téléphone à côté de moi à chaque fois que je lisais. J'avais ouvert sur les notes et je notais vraiment chaque indice que je pouvais voir. Par exemple, la description du meurtrier, le tatouage à l'avant-bras, son prénom, Ézéchiel, du moins au début, sa voix grave, la cinquantaine. Et à chaque fois, j'essayais, dès qu'on avait un nouveau personnage, de retrouver peut-être des signes de ses caractéristiques physiques pour essayer de mener mon enquête à côté. Mais j'ai l'impression que par ce livre, c'était pas vraiment ce qui était attendu du lecteur. J'ai pas l'impression que le lecteur pouvait, en parallèle, mener sa propre enquête. J'ai l'impression qu'on subissait un petit peu les actions et qu'on découvrait sur le tas et qu'il y avait rien pour nous amener à faire ces théories-là. Bien que j'ai eu quelques théories qui s'avéraient être très bonnes. Par exemple, avec la fille de Nicolas. Je pense que ça se dit Nicolas parce qu'on est en espagnol, mais ça sera Nicolas. Je vais avoir un peu de mal avec les prénoms, but anyway. On sait que Nicolas a une fille qui est normalement morte lors d'une explosion. Bon, dans ma tête, je me dis, il nous donne pas cette information pour rien. C'est sûr qu'elle ne l'est pas. C'est sûr qu'elle n'est pas morte. Je pense même que son père l'a forcée à le rejoindre dans toutes ses manigances et ses magouilles, ses kidnappings, etc. Puisqu'à un moment, on nous apprend que le chauffeur de taxi, c'était une femme. Donc je me suis dit, c'est sûr, Sandra, elle a été forcée, en fait, à le faire. Et finalement, pas du tout. J'étais à côté de la plaque. C'est complètement l'inverse. Mais au début, vous voyez, le cheminement, il était quand même bon. Après, ça se trouve qu'il y avait finalement des indices, mais je suis tellement nulle que je les ai pas lus. C'est très possible. Mais au moins, il y avait la volonté. La volonté y était. Pour une fois, j'ai essayé. Dites-moi si vous avez réussi à élucider certains points grâce à des caractéristiques, des aspects, des pistes qu'on nous donnait dans le livre. Il y a autre chose aussi que je trouve hyper intéressant dans ce livre, c'est la religion. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui est très à l'aise avec cette thématique-là qui revient dans les livres parce que peu importe la religion, je trouve que très souvent on va tomber dans quelque chose de blasphématoire qui est insultant pour la religion. Après, je me dis d'un côté, ok, on est sur une fiction, donc on peut pas avoir cette morale parfaite, on peut avoir ces débordements, entre guillemets. Je sais pas si je m'exprime très bien par rapport à ça, mais je me dis, on est sur une fiction, donc oui, même dans la vie, il y a des personnes qui pensent vraiment comme ça, et on s'inspire aussi de notre société, donc ok, mais je suis quand même très mal à l'aise lorsque je lis ce genre de passage. Et c'est vrai que la religion, ça a l'air d'être un thème qui revient pas mal dans les œuvres de Juan Gómez Jurado, parce que déjà le titre de son premier livre, qui est, je le rappelle, Espion de Dieu, je me dis que c'est quelque chose qu'il aime bien mettre en avant. Et pour une fois, je trouve que ça a été bien utilisé, entre guillemets, on s'entend, parce que ça apporte vraiment quelque chose, c'est cohérent. Et très souvent, moi, je me disais, ce genre de réplique, on n'en avait pas besoin, ça n'a rien rapporté à l'histoire. Et là, il y a comme un fil conducteur. Déjà, lorsqu'on retrouve la première scène de crime, qui est dans une maison, mais qui est complètement ritualisée autour d'un verset, avec l'eau bénite, tous les éléments qui peuvent être rattachés à ce verset-là, le fait que le meurtrier dise de lui-même qu'il fait tout ça au nom de Dieu pour punir ses pécheurs, il y a vraiment une cohérence. Et je crois même qu'à la fin, il y a encore un clin d'œil par rapport à ça. Là, tout de suite, je ne me rappelle plus, mais peut-être que je m'en rappellerai après. Mais pour une fois, je trouve que ça a été bien amené et que ça a été utile. Et j'ai pas été tant gênée que ça à le lire. Mais ce qui a fait que j'ai vraiment aimé ce livre, et pour moi, c'est le point fort, ça se rattache à la plume de l'auteur, qui est pour moi très fluide, parce qu'on est sur des mots simples, on est sur des chapitres assez courts, du vocabulaire assez familier. Et je pense que dans un thriller, lorsqu'on lit, déjà dans un polar plutôt, lorsqu'on le lit, il y a beaucoup d'informations, t'as beaucoup de choses qui se passent, comme je l'ai dit, on est sur un livre qui a plein de rebondissements, et avoir du vocabulaire en plus qui est assez complexe, tu t'en mêles les pinceaux, t'es un peu perdu. Et donc là, le fait qu'il ait choisi un vocabulaire très simple, je trouve que ça aide à la lecture. Mais c'est pas encore sur cet aspect-là que je trouve que sa plume est très agréable. C'est vraiment sur les POV. Donc les points de vue, ici on est sur un point de vue omniscient, c'est-à-dire que c'est un point de vue externe, mais le narrateur, il connaît vraiment toutes les pensées des personnages principaux, des personnages tout court même. C'est le genre de narrateur où, vous voyez, par exemple, rien à voir avec le livre, hein, mais je vous donne une scène pour imaginer plus facilement. Vous avez deux personnages qui sont dans le salon, qui sont en train de regarder la télé, et il se passe quelque chose dans la cuisine, et le narrateur sait exactement ce qui se passe dans la cuisine, même si le focus était fait au salon. Voilà, on est sur ce genre de point de vue. Je pourrais revenir d'ailleurs sur le compte Instagram, sur les différents points de vue, même si c'est des choses très simples, mais ça fait toujours une petite piqûre de rappel, et j'aime bien revenir sur quelques vocabulaires qui est rattaché au monde livresque. Donc par rapport à ce point de vue-là, dans ce livre, ce que j'aime beaucoup, c'est comment il est utilisé. En fait, j'ai l'impression que on est limite sur un point de vue interne, que c'est vraiment le personnage qui nous parle de lui, de son histoire, à la troisième personne du singulier. Il y a vraiment quelque chose d'assez cinématographique, comme si on était à travers son regard. Et je pense que ça, c'est dû aux petits passages que l'auteur nous glisse, les petits passages en italique qui sont révélateurs de la pensée du personnage. Et en fait, c'est tellement fluide, il place tellement bien ces phrases-là, t'as l'impression que ça fait partie du corps du texte et il n'y a pas un détachement. Parce que en soi, dans d'autres œuvres, ça arrive très souvent qu'on nous dise la pensée d'un des personnages, mais souvent, ça va être écrit comme un dialogue, donc t'auras le tiré et t'auras la phrase. Ou alors, on va rajouter des phrases comme « dit-il, jure-t-il, etc. » Et du coup, il y a un peu une rupture. Là, il le fait de temps en temps, mais le plus souvent, il glisse simplement la phrase dans le corps du texte en italique. Et je trouve ça, je sais pas, je trouve que ça appuie sur quelque chose. Et même au début, j'étais tellement matrixée que je me suis dit « ces phrases-là, c'est pour nous aider. » C'est peut-être des indices, c'est peut-être le meurtrier qui parle et c'est pas forcément le personnage auquel on pense. Bon, finalement, j'étais matrixée, mais je trouve ça hyper bien fait. Je trouve que ça rend le texte encore plus vivant. Et si vous voyez pas de quoi je parle, on va prendre notre livre, page 84, il nous dit « L'homme effleure le visage de la femme derrière le miroir sans teint, comme s'il cherchait à attirer l'attention d'un pinceau rouge dans un bocal. Mais moi, je t'ai trouvé, Mademoiselle Scott. » Vous voyez, quand je dis que c'est super fluide, et que ça se lit hyper bien, et à ce moment-là, tu te dis, c'est sûrement le meurtrier qui parle, parce qu'on est au début du livre quand même, page 84, tu te dis, c'est sûrement le meurtrier qui parle. Et puis à la page 95 aussi, on nous dit, le coup de frein a aussi envoyé vaciller son téléphone, impossible de le retrouver. Elle tâtonne de la main droite, tandis que de la gauche, elle s'appuie contre le siège. Putain, où tu te caches ? Bon, là, on comprend, on est au moment où Carla tombe sur Ézéchiel en voiture. Le putain où tu te caches, tu dis que c'est Carla, mais en vrai, tu pourrais dire que c'est Ézéchiel, hein ? Et puis, ce qui appuie ces points de vue-là, dans chaque chapitre déjà, tu vois que le focus, il est fait sur un personnage, donc forcément, ça renforce ce sentiment-là. Il y a même des chapitres qui s'appellent, par exemple, je crois qu'il y a un chapitre qui s'appelle Carla. Il y en a même un qui s'appelle Sandra, je crois, donc ça fait qu'appuyer ça. Et c'est aussi, t'as vraiment des grandes parties. T'en as trois. T'as le premier qui est sur John, je pense que ça se dit Ron, mais John. Le deuxième qui est sur Carla et le troisième qui est sur Antonia. Et tu le ressens vraiment dans l'histoire. S'il n'y avait pas écrit que ce sont des parties affiliées à ces personnages-là, tu le ressens quand même. Parce que le début, ça commence vraiment avec John, sur son histoire, sur comment il a été écarté, sur le chantage que Mentor lui fait, etc., qui le pousse un peu. On est beaucoup plus sur l'apprentissage de ce personnage au début. Ensuite, on a Carla, donc le moment où elle se fait kidnapper. On a beaucoup de passages en cellule, tu as beaucoup plus de points de vue et de scènes qui sont concentrées sur elle. Et enfin, Antonia, à la fin, bah, c'est clairement la star, hein, avec le kidnapping de son fils, lorsqu'elle va chercher son fils, lorsque son père revient aussi, son accident de voiture qui est causé par John. Enfin, tu comprends vraiment ces parties et je pense que ça fait que renforcer encore la réussite de ces points de vue-là. Et comme je vous parlais d'Antonia, parlons de cette grande dame. La Reine Rouge, a.k.a. Señora Antonia Scott, c'est ma star en fait. C'est mon personnage préféré de ce livre. Je pense que c'est le personnage aussi préféré de beaucoup. Parce qu'elle est hyper intéressante. Ses facultés intellectuelles sont hyper intéressantes. Et je pense que je suis aussi un peu à fond sur elle parce que il y a pas très longtemps, j'ai fini Elementary. Elementary, ça reprend, c'est une série qui reprend les enquêtes du détective Sherlock Holmes. Et forcément, je pense que tout le monde, et même, je crois qu'ils en ont parlé lors de l'interview radio à la Bentana, mais tout le monde a fait le lien avec Sherlock Holmes et Watson. Tout le monde a fait ce lien-là. Parce que déjà, Antonia et Sherlock Holmes, ils ont les mêmes caractéristiques de génie. Ils font des calculs improbables. Quand ils s'ennuient, la fille, elle compte quand même le nombre de fois où la roue fait des tours jusqu'à arriver à destination. Qui fait ça en fait ? Alors que toi, à côté, t'es là avec ta calculette, tu tapes 1 plus 1 pour voir si c'est toujours égal à 2, pour voir si les règles mathématiques n'ont pas changé entre-temps. T'es ridicule, tu vois. Et t'as Antonia, elle retient vraiment tout ce qu'elle lit, tout ce qu'elle voit, même si ça fait des années, elle va le retenir. Et c'est exactement les mêmes caractéristiques qu'on retrouve chez Sherlock Holmes. Et je me suis même demandé un moment si elle n'était pas atteinte d'autisme. Attention, je m'explique tout de suite. Déjà, le fait que je fais le lien, que je fasse le lien avec Sherlock Holmes, pour vous dire, il y a beaucoup de personnes qui se sont demandées si Sherlock Holmes n'était pas atteint d'autisme. Parce que c'est vrai que les facultés intellectuelles supérieures, c'est assez rattaché à l'autisme. Après, je pense que oui, tu peux être juste HPI et que ça soit pas directement en lien avec l'autisme. Mais il y a d'autres choses qui m'ont fait penser à ça. Le fait que elle a du mal à se concentrer dans des environnements où il y a pas mal d'informations. Par information, j'entends du bruit, des couleurs, des clignotements, la lumière aussi qui peut être trop forte. Et je vois aussi par rapport à son appartement qui est vide. En vrai, tu peux te faire plein de suppositions qui sont simples, comme le fait que, bah, vu ce qu'elle a vécu avec son mari dans l'appartement, elle a décidé de tout virer parce que ça fait émerger des souvenirs, donc elle a pas forcément envie. Tu peux dire aussi, bah, la fille a passé sa vie à l'hôpital, donc ça sert à rien d'avoir tout ça chez elle. Mais tu peux aussi te dire que avoir un appartement encombré, c'est comme avoir beaucoup, pas mal d'informations. Et dans ce cas-là, t'as pas trop envie parce que, bah, si c'est pour avoir des migraines, parce qu'il y a trois meubles chez toi, flemme, autant tout enlever. Après, je pense que je me pose aussi la question, puisque en ce moment, je regarde The Good Doctor. C'est une série qui porte sur un médecin atteint d'autisme. Donc, je pense que ça aussi, ça a un peu biaisé mes réflexions. But anyway, j'ai l'impression quand même que c'est dommage parce que ils ont pas assez poussé, je pense, les caractéristiques intellectuelles d'Antonia. J'ai l'impression qu'ils ont montré beaucoup plus les facettes sombres, tristes de ses facultés. On voit qu'elle est obligée de prendre des médicaments pour se concentrer. on voit que bah tout ce que je vous ai dit sur l'environnement très bruyant, etc., j'ai l'impression qu'ils ont montré plus aussi l'aspect sociable, comment elle se comporte avec les gens. Elle est assez distante, elle est assez froide. Ils ont vraiment plus montré le côté, pas négatif, mais ouais, plus triste, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est vrai que j'aurais aimé beaucoup plus de moments où on fait appel à ces facultés-là. Par exemple, tout à la fin, au moment où elle va chercher son fils et qu'elle est dans les tunnels et qu'il y a plusieurs chemins qui s'offrent à elle, elle est obligée de prendre un de ses médicaments pour se concentrer et trouver quel chemin l'emmènera vers son fils. Et on voit comment elle analyse, elle se dit « Ok, ça va être ce chemin parce que il y a des rats qui passent. » Parce que je crois qu'il y avait de l'eau aussi, je sais plus, mais en tout cas, il y avait les rats, j'en suis sûre. Et je me dis, on aurait pu avoir plus d'analyses comme celle-ci dans d'autres moments du livre. Mais comme vous l'avez compris, derrière cette grande intelligence, il y a une triste histoire et ça commence directement sur comment elle a été formée pour devenir Reine Rouge. La meuf, elle a un QI de dingue, elle a une performance de dingue et c'est pas encore assez. Et on la torture pour qu'elle monte un grade au-dessus, comme si elle en avait vraiment besoin. Franchement, ça m'a fait de la peine. Hein. Ça m'a fait un peu penser à l'expérience de Milgram, même si la finalité et l'évaluation de fin, c'est pas porté sur la même chose. Mais je me suis dit, elle s'est quand même pris des coups de jus. Elle a fini la tête en bas pour... Enfin, elle a fini dans des situations... Là, vous voyez pas ma tête, mais j'ai une tête qui fait un point d'interrogation, clairement. Genre, tu t'imagines pas, en fait, tout ça. Et malgré ça, malgré qu'ils ont essayé de la robotiser, hein, pour moi, c'est limite s'ils l'ont pas déshumanisée, mais elle continue d'aimer les gens à sa manière. On le voit avec son mari, elle est hyper loyale avec son mari. On le voit avec son fils, qu'elle aime éperdument, puisqu'elle est prête à faire des sacrifices, à s'éloigner de lui, à ne plus vivre avec lui, à limite plus le voir pour son bien. Bref, pour moi, Antonia Scott, c'est le main caractère qu'elle pense être. C'est vraiment the badass bitch. Je l'aime trop. Je l'aime trop et naturellement, elle devait se retrouver dans mon passage préféré. Bon, contrairement à la partie précédente où mon personnage préféré, il était acté, là, mon moment préféré, c'en est pas vraiment un. Enfin, je vais vous parler de deux moments où je me suis vraiment dit, ok, je rentre dans ce livre, j'aime ce livre, parce que c'est des parties que j'ai pas l'habitude de lire. Pourquoi? Parce que bah c'est par exemple les courses-poursuites ou les descriptions assez longues de personnages ou de paysages, ce genre de choses, où je lis en diagonale. Et après, dès que je vois qu'il y a une caractéristique intéressante, il y a des éléments intéressants ou que le rythme il commence à s'accélérer, bah là, je reprends une lecture normale et je lis bien ligne par ligne. Mais quand je me suis prise en fait dans la course-poursuite sur l'autoroute avec Antonia au volant, John qui était côté passager et tous les deux poursuivent le meurtrier Ézéchiel, j'ai grave lu en fait la partie. Et c'est vraiment là que je me suis dit, ah ouais, t'aimes vraiment le livre, parce que pour lire ce genre de moment, c'est que vraiment t'aimes ce livre. Mais j'étais là, le cœur serré. Déjà, je pense que ça joue parce que avant, il y a la scène où John et Antonia reviennent sur la scène de crime pour voir s'il n'y a pas des indices qui ont été laissés par le meurtrier, etc. Et Ézéchiel qui arrive avec sa voiture, qui fonce dans Antonia. Enfin, déjà, juste ce moment, j'ai beaucoup apprécié. Et ensuite, ça s'enchaîne avec la course-poursuite. Encore une fois, hein, j'avais mon téléphone à côté de moi. C'est là où on sait pour le tatouage que j'ai noté, etc. Mais il y a un autre passage qui est même avant celui-ci où je me suis dit, je pense que ça va être très intéressant. Et on est au tout début. C'est le moment où Carla rentre chez elle. Elle est accompagnée de son chauffeur et à l'arrière, il y a sa jument qui est tractée dans son box. Elle s'arrête très rapidement parce qu'il y a des travaux sur la route, donc on les dirige vers une déviation. Et là, bon, vous avez compris, c'est Nicolas, tue le chauffeur de sang-froid devant Carla. Elle fuit dans la forêt. Ça s'enchaîne encore une fois d'une course-poursuite. J'avais le cœur serré. Moi, quand les passages comme ça, où j'ai un peu le cœur serré, surtout dans les polars, je ferme. Je ferme le livre, je souffle, après je reprends ma lecture. Mais faut que je me prépare psychologiquement. J'ai du mal à lire tout d'une traite. Ça fait « Ah !» Genre, j'ai le cœur serré. Bref, on est à ce moment-là. À un moment, elle réussit à se cacher, je crois, derrière une auberge, derrière une maison, je sais plus très bien. Et il y a Ézéchiel qui est toujours derrière elle et il lui fait du chantage. Il lui dit, ouais, c'est soit tu te rends, soit je tue ta jument. Je me suis dit, ok, girl, là, t'échappes à peu près à ton meurtrier. Déjà que ton pourcentage de survie, il est faible à ce moment-là. Elle va pas se rendre. J'étais choquée. J'étais choquée. Quand elle s'est rendue, j'ai dit, are you dumb? J'ai crié. J'ai dit, mais pourquoi? Ça se trouve, même, il bluffe. T'en sais rien. Et d'ailleurs, le cheval, aujourd'hui, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui lui était arrivé. Je sais pas si c'est moi qui ai loupé quelque chose, mais le cheval, on sait pas ce qui lui est arrivé. Donc ça se trouve que il a pris Antonia, Carla et il a tué quand même le cheval. Attention, je comprends qu'on peut lier un sentiment très fort avec ces animaux, qu'on soit le meilleur ami des animaux, tout ça, mais là c'était quand même sa vie. Bon après il y en a, ils voient leurs animaux comme des leurs bébés et tout, donc bon. C'est pas ça que je juge. Je me dis juste qu'elle avait une chance de s'échapper et elle l'a pas saisie. Elle s'est rendue. Et je me suis dit, à ce moment-là, girl, tu vas me rendre crazy, en fait. Tu vas, ah oui. C'est très franglais ici. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, mais c'est très franglais. Je suis la personne qui fait pitié parce qu'elle parle anglais parfois. Donc, ça va être ça. Je suis désolée d'avance. Mais oui, donc je disais, je me suis dit qu'elle allait me rendre folle, Carla, qu'elle va prendre des décisions où je vais souffler, et ça n'a pas manqué. Elle a donné son mot de passe à iCloud. Après, je dis ça, je juge, hein, mais moi, ça se trouve que je l'aurais même envoyé beaucoup plus tôt. Mais elle a envoyé son mot de passe à iCloud. On lui dit de la fermer. Vous savez quand Sandra se fait passer pour une détenue, et elle lui dit, oui, je vois tout dans un petit trou. Là, il arrive, vas-y, boucle-la, parce qu'il veut pas qu'on parle. Et elle continue à crier. Je me suis dit, mais girl, tu veux mourir? En fait, c'est ça, c'est qu'elle ne tient pas à sa vie, la go veut mourir. Je pense que c'est ça, en fait. En vrai, il y a d'autres passages qui sont même intéressants. Par exemple, celui où Sandra, elle révèle sa vraie identité à Carla, où elle lui dit qu'elle a kiffé se foutre de sa gueule en se faisant passer pour une détenue alors qu'elle l'était pas du tout, que c'était elle qui menait la danse, qui chapeautait un peu tout, même tout. Donc, ce passage aussi, j'étais, oh purée, elle est cruelle, elle est horrible, j'étais vraiment comme ça. Mais écoutez, ça se voit que j'avais pas vraiment de passage préféré, puisque là, je vous ai cité plusieurs passages. J'aimerais bien savoir le vôtre, donc n'hésitez pas à me le partager. Mais pour l'heure, on va passer à une autre partie, c'est les réponses aux commentaires. La dernière fois, je vous ai balancé les commentaires comme ça, et je vous ai même pas présenté Clyde, en fait. Clyde, c'est notre IA qui nous lit gentiment les commentaires, parce que c'est plus simple pour vous de faire la distinction entre le moment où on lit le commentaire et donc l'avis d'un lecteur et le moment où j'y réponds. Si c'est deux fois ma voix, vous n'allez pas comprendre quand est-ce que le commentaire s'est arrêté, donc j'ai préféré faire comme ça. Et on commence tout de suite avec le premier.
Commentaire 1. Eh bien, pas époustouflé par cette lecture. Une histoire assez semblable à des milliers d'autres. Un flic au rancard, une femme avec un petit truc en plus. Enrôlé dans une unité spéciale sur des affaires de kidnapping. Je ne sais pas si mon désintérêt m'a fait zapper un truc ou l'autre, mais il y a quand même des éléments non résolus. L'auteur nous annonce une suite que je ne lirai pas. Avec pas mal de lectures en retard, j'ai la sensation d'avoir perdu mon temps en lisant ce bouquin.
Franchement, j'étais choquée. Quand j'ai sélectionné ce commentaire, j'étais choquée. Parce que moi, j'aime pas prendre les premiers commentaires parce que ce sont ceux qu'on voit le plus puisque c'est les premières pages, ils sont lus par tout le monde, ils sont vus par tout le monde. Donc voilà, je me dis, je préfère dig un petit peu plus. Mais quand j'ai cliqué, je pense, sur une page au hasard et je suis tombée, c'était le premier tout en haut de cette page et je me suis dit, oh waouh, genre, c'est tellement à l'opposé de ce que je pense parce que non, pour moi, il y a tellement de rebondissements dans ce livre. Il y a un nouveau meurtre, enfin, il y a un nouveau kidnapping, il y a un meurtre, il y a des nouveaux personnages, comme le photographe. Le photographe, il aurait dû être plus présent. Il aurait dû encore plus foutre la zizanie. J'espère qu'on va le retrouver dans le tome 2. Mais le photographe, quand il est apparu, j'ai dit, oh waouh, lui, ça va être les problèmes, en fait. Il y a la bombe qui explose dans l'appartement. Ça aussi, ça aurait pu être dans les passages marquants. La bombe, je m'y attendais vraiment pas. Je savais que c'était un piège, parce que je me suis dit, ils vont pas retrouver Carla tout de suite. On est à la moitié du livre, à peu près. Donc, il reste tellement de choses que, oui, ça va être bizarre. Je m'attendais pas à ce que ça soit un piège aussi sanglant et destructeur, en fait. Donc, il y a ça. Il y a plein de choses qui font, encore une fois, que ça relance l'histoire. Moi, c'est certain que je signe pour le second tome et que je vais le lire, je vais l'acheter, je vais le lire. Et puis, comme je vous ai dit, la plume de l'auteur est super fluide, super agréable. Donc, ouais, moi, je signe pour la suite. Après, c'est quand même un commentaire que j'apprécie parce que, déjà, on peut pas être toujours d'accord. Mais c'est vrai, pour être très honnête, je trouve que sur Booksta et BookTok, donc TikTok et l'Instagram où on parle de livres, j'ai l'impression que ce sont déjà toujours ou très souvent les mêmes livres qu'on voit. Et en plus, les notes, c'est toujours 5, ou au pire, c'est 4. C'est vraiment au pire. C'est pas une mauvaise chose forcément, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on peut plus donner une note plus basse sans que ça soit justifié par des critiques constructives, ou du moins, tu as passé pour la méchante ou quoi. Après, il y a certains, j'allais dire blogueurs, mais non, mais certaines personnes qui estiment qu'ils vont seulement présenter des livres qu'ils ont aimés. Donc forcément, les notes, elles vont rester autour de 5 et 4. Mais moi, je pense que c'est plus intéressant, même pour ouvrir le débat, de présenter même des livres qu'on n'a pas forcément aimés et de dire pourquoi. C'est vraiment dire pourquoi, c'est vraiment la justification. Sinon, ça sert à rien. Dire juste « j'ai pas aimé », ça, c'est pas intéressant. Je me demande d'ailleurs, est-ce que vous serez partant pour que je donne des notes clairement, j'aurai pas 55 sur 5 pour moi. C'est pas parce que j'ai envie de faire la fille différente, ni être la méchante, ça m'intéresse pas. C'est juste que, il y en a certains qui font la distinction entre le 5 sur 5 et le coup de cœur. Mais pour moi, un coup de cœur, c'est un 5 sur 5. Si je mets pas la note maximale, c'est que il manquait un petit truc pour que justement, ça soit le coup de cœur, le livre que je kiffe de ouf. Donc, tout simplement, voilà. Mais ouais, je réfléchis à attribuer des notes. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on passe tout de suite au second commentaire qui, accrochez-vous, est assez long. Et surtout, waouh, on est sur la même vibes en fait. Et je m'y attendais tellement pas.
Commentaire 2. Les personnages sont intéressants, à défaut d'être attachants. Le récit pourrait être prenant s'il n'était pas aussi lacunaire et si la fin n'était un peu bâclée. J'ai en permanence eu la sensation que l'auteur frôlait son sujet, s'en approchait mais sans jamais le rencontrer ni aller au fond, comme par une sorte de paresse. Il ébauche une idée, mais cela reste malheureusement au stade de l'ébauche, si bien que le résultat est un récit tiède et sans relief, comme si l'auteur était trop timide pour aller au bout de ses pensées. Trop de questions sont posées, au fil des chapitres, pour intriguer, sans que jamais aucune réponse ne soit apportée, comme si c'était au lecteur de jouer les devins ou de finir le travail, si bien qu'à aucun moment on est pris par l'histoire, et le suspense indispensable à ce type de récit est inexistant. Pas un instant on ne tremble pour les protagonistes. Quant à leur amitié aussi soudaine qu'improbable, elle aurait davantage sa place dans un roman de gare et n'apporte rien au sujet. L'auteur nous demande instamment de ne pas dévoiler la fin de l'histoire pour ne pas gâcher la surprise aux futurs autres lecteurs. Mais quelle surprise et qui a-t-il à gâcher? La fin est totalement prévisible et sans grand intérêt, puisqu'on ne sait ni comment cette machination a été montée, ni pourquoi. Bref, si ce n'est pas un mauvais livre, ce n'est sûrement pas le chef-d'œuvre annoncé, et cela ne mérite sûrement pas le battage qui en a été fait. On est bien loin de la précision chirurgicale d'une intrigue concoctée par un Paul Cleave, ou un Stéphane Hannem, ou quelques autres qu'il serait trop long de citer. Un livre qui se lit sans réel déplaisir, mais sans passion, éventuellement sur la plage, si on n'a rien de mieux à faire.
Donc, par où commencer? L'attachement des personnages. Moi, je trouve qu'on y est. Antonia, comme je vous ai dit, pour moi, c'est ma Sherlock Holmes. Je la trouve attachante par son intelligence, par sa relation aux autres, et aussi par son amitié avec John. Je trouve que ça fonctionne. C'est une dualité qu'on a toujours l'habitude de voir. La tête pensante et celui qui fonce un peu dans le tas, mais c'est quelque chose qui fonctionne et qui marche complètement, donc pourquoi s'arrêter? Moi, j'ai envie de revoir ce duo. Je trouve pas forcément que c'est anodin, enfin que c'est... Je trouve pas forcément que leur amitié, elle est née du jour au lendemain. Moi, je peux comprendre qu'Antonia, enfin, comment je l'interprète, c'est que Antonia, bah, derrière sa carapace de froide, etc., c'est une personne qui sent les gens, et elle veut pas montrer qu'elle s'attache à une personne. Et donc moi, quand j'ai vu qu'il commençait à vraiment sympathiser et à senser des petits pics, ça m'a pas paru bizarre. Après, bon, pour revenir aux commentaires, C'est vrai que j'ai pas lu du Paul Cleave ou du Stefan Enheim. J'espère que je l'ai bien dit. Sinon, je suis encore une fois désolée. Peut-être que je devrais avoir honte de ne pas avoir lu ces deux auteurs. Mais écoutez, je me le note, je le ferai. Mais ça change pas mon avis pour l'instant sur Reine Rouge, qui est un roman, un bon polar qui fonctionne. Après, c'est vrai que sur la fin, quand on nous montre le fils d'Antonia, tu te doutes que lui, il va se passer une dinguerie avec lui, qu'il va être kidnappé, tu te doutes qu'elle va le retrouver. Mais les questions qui restent, en fait, dans ce tome, je trouve que c'est des questions où on va retrouver la réponse dans le prochain tome. Sandra qui n'est pas Sandra, Ézéchiel, quoi d'autre, comme son père, le père d'Antonia, il est passé où? Le photographe, il est passé où? Oui, je pense que il y a des questions qui restent en suspens, mais c'est une façon de nous donner envie de lire le tome 2, tout simplement.
Commentaire 3. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Si le début m'a laissé de marbre, j'ai bien fait de persévérer car la suite est à la hauteur de ceux que j'aime lire. Des rebondissements, de l'action, des énigmes et une fin très intéressante qui appelle à lire le deuxième tome avec impatience.
Et on finit sur un commentaire positif. Je n'ai rien à dire sur ce commentaire. Je voulais juste qu'on termine tout ça en douceur. Je vous assure, guys, moi j'étais choquée lorsque j'ai lu les critiques parce que je m'y attendais pas. Je pensais que tout le monde allait aimer le livre comme moi, mais c'est pas le cas. Moi j'ai bien aimé ce livre, je le recommande. Je pense que la fin réussit à susciter notre curiosité avec l'ADN, comme je le disais. Sandra qui n'est peut-être pas Sandra, puisque l'ADN révèle à 99% que la personne dans la tombe, c'est vraiment la fille de Nicolas. Après, vous savez, on est des inspecteurs hors pair maintenant, donc on sait que l'ADN, ça se trafique assez fréquemment et assez facilement. Par rapport aux questions qui restent en suspens, il y en a une que je veux vraiment comprendre et je veux vraiment savoir, c'est à la page 530, quand Sandra s'adresse à Antonia et elle lui dit... Mais lui, il m'a trouvé, Scott. Il m'a recueilli, il m'a rendu meilleur. Il m'a appris à manipuler Farhardo. Il a inventé le personnage d'Ézéchiel pour toi. Nous n'avons pas choisi le nom d'un prophète par hasard. Un prophète parle au nom d'un pouvoir supérieur. Un prophète annonce qu'il reste à venir. Girl, je me suis dit, mais dis-moi en fait, dis-nous c'est qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? C'est clairement ça, je me demande. Et même... Vous voyez, tout à l'heure, je me disais, il y avait d'autres références à la religion. Là aussi, Ézéchiel, ça n'a pas été choisi au hasard, et je trouve ça intéressant comment il le lit jusqu'à la fin. Pour tout vous dire, j'ai ma petite théorie. Je pense qu'on devrait faire attention à Mentor. Pourquoi ? Mentor, déjà, menteur, mentor, voilà. Je ne sais pas si c'est en espagnol c'est la même chose, mais les deux mots se ressemblent un petit peu. Mais plus sérieusement... Mentor, c'est un personnage très mystérieux. À un moment, on le voit plus trop. Et ça doit être un manipulateur. Ça doit être un manipulateur parce que comment t'arrives à faire signer un contrat à quelqu'un qui stipule que tu vas être torturé, que tu vas recevoir des décharges, qu'on va te droguer même. Tout ça pour devenir Reine Rouge. Faut être fou. Faut rentrer dans la tête des gens. Et... Mentor, j'ai aussi cette impression que ça pourrait être l'homme qui a trouvé Sandra parce que il a tout fait pour que Antonia revienne sur le devant de la scène, reprenne les enquêtes. Et elle dit, Sandra, dans sa réplique, elle nous dit, il a inventé le personnage d'Ézéchiel pour toi. Et à un moment, on comprend aussi que Mentor, il était tellement dépassé, il a envoyé tellement d'agents pour trouver Antonia, pour la faire revenir, il a jamais réussi. Donc je me suis dit, ouais, ça se trouve qu'il a monté ça de toutes pièces, juste pour la remettre dans le bain. Et concernant le livre, si oui ou non on l'a aimé, je peux aussi comprendre qu'on l'ait pas aimé, parce que vous avez vu, tout au long de l'épisode, j'ai fait attention de pas dire thriller, et j'ai vraiment parlé de polar, parce que pour moi, Reine Rouge, c'est un polar. On est vraiment sur une enquête, il n'y a pas tant l'aspect psychologique autour du meurtrier ou autour de certains personnages, et je trouve que dans un thriller, c'est surtout ça, c'est surtout l'aspect psychique. On est pas mal dans le mécanisme de pensée, dans les rouages de la pensée. On est aussi sur quelque chose très à suspense. Un thriller, il est pas obligé de se baser sur une enquête, et souvent on fait l'association polar thriller. Moi, la première, puisque souvent j'écris thriller slash polar. Parce que dans les enquêtes, bah, très souvent, on nous met en avant les motivations du meurtrier, on rentre un peu plus dans ses pensées. Et selon moi, après ça, c'est ma définition, mais après, je me documenterai un peu plus, voir vraiment quelles sont les différences entre un thriller et un polar. Mais là, c'est pas ce qu'on retrouve dans Reine Rouge, je trouve. Et donc, si on s'attend à un thriller avec beaucoup de suspense, pour moi, on n'y est pas. Mais, enfin, c'est pas dommage. Enfin, moi, j'avais aucune attente quand j'ai lu ce livre. Donc, j'ai pas pu être déçue. Mais tout ce qu'on doit retenir de cet épisode, c'est que de 1, je dois acheter le tome 2. De 2, je dois acheter et lire du Paul Cliff parce que apparemment c'est là où il y a les vrais plot twists, les vraies intrigues. Et de 3, après avoir fini le tome 2, je dois vous enregistrer l'after de Louve Noire. Et on verra bien si j'ai changé d'avis, si finalement j'ai toujours mes questions qui sont en suspens, si Paul Cliff is better than Juan Gomez Jurado. On verra tout ça. Mais en attendant, on se retrouve sur le compte Instagram du podcast parce que là, clairement, j'ai besoin de votre avis. J'ai besoin de sentir que je ne suis pas seule à avoir aimé ce livre vu les commentaires que j'ai sélectionnés. Manifestez-vous, guys. Manifestez-vous. Envoyez-moi un DM. Je vous y attends nombreux car plus on est de fous et plus on lit. À bientôt!